Question 6 bis. Comment, selon le Coran, se définit la communauté humaine idéale?
Alors, la première chose à dire en réponse à cette question, c'est que la communauté humaine ne saurait comporter de hiérarchie de valeur quelconque. C'est-à-dire que les hommes sont tous reliés à l'homme premier, symbolique, Adam. Nous sommes tous Banu Adam, les fils d'Adam. Et le Coran insiste beaucoup sur cette égalité fondamentale de tous les hommes qui composent la communauté humaine, la communauté des hommes. Et il revient très souvent sur le fait que il ne saurait y avoir d'inégalité ontologique, mais aussi inégalité même sociale, idéalement bien sûr, entre les hommes, parce que la société arabe avant l'islam insistait beaucoup sur cette inégalité en fonction de la généalogie, en fonction de l'ascendance, donc de la noblesse d'appartenance, ou au contraire de la situation d'esclave ou de la situation de tribu inférieure, de tribu qui a demandé la protection d'une autre tribu et qui nécessairement se trouve socialement inférieure à elle, etc. Il y avait donc des rapports hiérarchiques entre les hommes très fortement prononcés, et contre cette hiérarchie, le Coran a lutté de la manière la plus constante, la plus forte, pour essayer de dire que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est leur degré différent de proximité avec Dieu, c'est-à-dire avec l'absolu. Plus l'homme se rapproche de l'absolu de Dieu, plus il rejoint le niveau idéal de l'humain, et plus il rejoint le niveau idéal de l'unité de la communauté humaine. Voilà la vision fondamentale. Et ça, c'est évidemment, je dirais, à la fois moderne, transhistorique de tous les temps, c'est l'aspiration humaine fondamentale. Et cette aspiration se trouve fortement exprimée par le Coran, et elle va être effectivement intériorisée à des degrés divers et traduite de diverses façons dans les institutions, dans l'éthique, dans les comportements des musulmans dans les différentes sociétés où ils se trouvent engagés. Bien, ça donc c'est la communauté humaine idéale telle qu'elle est vue par le Coran. C'est, je dirais, le dessein de Dieu sur les hommes, comment Dieu veut élever la condition humaine jusqu'à lui, et donc supprimer tous les handicaps et toutes les faiblesses qui minent la vie de la communauté humaine. Mais il y a une dimension historique et politique du discours coranique. Et cette dimension historique et politique se traduit par des différenciations très nettes, très fortes, et qui vont jouer un rôle permanent dans la perception musulmane des hommes en société. Le premier grand schisme ou grand clivage dans la communauté humaine, c'est le schisme entre ceux que le Coran va désigner par le nom de Mouminoun, les croyants, et ceux qu'il va désigner par le nom de Kafiroun, les infidèles. Les infidèles, ceux qui renient cette relation idéale que Dieu a proposée aux hommes et qui lie Dieu aux hommes dans un pacte fondamental. Le mot pacte est un mot coranique, c'est le mot al-mithaq, et c'est le mot biblique alliance. appel, c'est l'alliance. L'alliance entre Dieu et non pas un peuple circonscrit, mais les hommes, les créatures, la condition humaine. N'est-ce pas? Alors, il y a donc cette division entre ceux qui entrent dans l'alliance et qui vivent pleinement l'alliance dans l'obéissance. Ils vivent l'alliance dans l'islam. L'islam au sens que j'ai défini avec Abraham. Pas l'islam au sens justement rituel, etc. Ce sont les croyants. Et ici, on peut faire une distinction entre les croyants et les musulmans. Parce que les musulmans vont désigner, bien sûr, des croyants, mais avec une définition juridique, avec un statut juridique précis. Ce sont des gens qui se rapportent à une forme de la juridiction définie par un code, etc., une loi, etc. Ils sont en même temps, bien sûr, des croyants. Tandis que les croyants, c'est beaucoup plus large. Un chrétien est un croyant. Il peut faire partie de l'alliance. Un juif est un croyant. Il peut faire partie de l'alliance, même si on ne lui applique pas la loi que suit le musulman. Alors, les infidèles, ce sont donc essentiellement les polythéistes, tous les polythéistes, où qu'ils soient, aussi bien en Arabie qu'ailleurs, mais ils peuvent aussi être des chrétiens et des juifs qui ne se conforment pas à l'histoire de la révélation telle que le Coran l'a redéfinie et telle que le Coran la retravaille. Ça, c'est important. Parce qu'il va y avoir des éléments qui, évidemment, peuvent être présentés comme des éléments de polémique religieuse ou théologique entre les musulmans d'un côté et les juifs et les chrétiens de l'autre. Et parmi ces éléments, il y a le fait que les juifs, par exemple, sont accusés, dans un verset du Coran, de considérer un certain Uzair comme un dieu. Donc, d'introduire une sorte de polythéisme, contrairement à la tradition profonde d'Israël, qui est monothéiste. Ainsi, il peut y avoir des juifs qui vont rejoindre le camp des infidèles si ils quittent la perspective du monothéisme telle que, je le répète, le Coran l'a redéfini. Ça, c'est important. De la même façon, les chrétiens qui sont des croyants et à ce titre font partie de la communauté humaine peuvent eux aussi sortir du statut de croyant pour aller rejoindre le statut des infidèles si par exemple ils disent que Jésus est le Fils de Dieu dans la perspective coranique. Autrement dit, la moitié. Pardon, oui, je veux. Pardon. Autrement dit, la notion de croyant va se compliquer avec l'intervention du Coran. Les croyants qui font partie de l'alliance renouvelée, de la version coranique de l'alliance, avec des définitions théologiques nouvelles, en particulier sur Jésus, sur le monothéisme juif, et aussi sur le problème des Écritures. Car un autre point important de controverse qui va diviser les musulmans et les peuples du livre, c'est la question que le Coran appelle le tahrif, c'est-à-dire l'altération des Écritures, l'altération de la Bible et des évangiles par les juifs et les chrétiens, une altération qui change les contenus de la révélation et qui fait qu'il va y avoir opposition entre ces premiers états de la révélation et la révélation faite dans le corps. C'est un gros point, ça, également, de contestation, qui va dessiner de nouvelles frontières entre les croyants pléniers et les croyants qui sont sortis ou qui ont dévié. Donc le grand schisme, croyant infidèle, Du côté des croyants donc, on peut trouver des chrétiens, des juifs, et même ceux qui sont désignés sous le nom de Sabéens. C'est une croyance qui existait, on ne connaît pas exactement ce que représente ce groupe, mais ils sont mentionnés dans un verset du Coran avec les juifs et les chrétiens pour dire que ce sont des croyants qui font partie de la communauté donc promise au salut, comme on dit, et qui n'ont pas à craindre pour leur sort futur dans l'éternité. Et puis il y a ceux qui sortent de l'orthodoxie à l'intérieur de chacune de ces religions et qui perdent donc le statut de croyant plénier. Autrement dit, la communauté humaine qui est définie idéalement comme une communauté appelée entièrement à rejoindre Dieu, se trouve dans la réalité juridique et politique divisée. Et quand les juristes vont intervenir dans l'empire musulman pour justement définir les statuts juridiques des personnes, ils vont tenir compte de cette définition que le Coran donne de la communauté humaine idéale, qui est composée des croyants, et des infidèles qui ne font pas partie de cette communauté et pour lesquels donc il va falloir fixer un statut juridique à l'intérieur de l'empire musulman et hors de l'empire musulman. Et voilà pourquoi les juristes, cette fois je parle du droit, vont diviser la terre en deux parties. Une partie qui s'appelle Darul Islam, la demeure de l'islam, c'est-à-dire l'espace géopolitique où la loi de l'islam, la version religieuse définie par le Coran au sujet de la communauté humaine idéale est appliquée. Elle est appliquée théologiquement, elle est appliquée juridiquement avec l'institution califale, etc. Et puis, il y a à l'extérieur des frontières de cet empire musulman, de cet espace musulman, de cette demeure de l'islam, il y a ce qu'on appelle Darul Harb, l'espace où la guerre est toujours potentielle, ou même en cours. Elle est potentielle parce que dès qu'il y a heurts ou rencontres entre les croyants et les infidèles, il y a fatalement choc. Et ce choc peut se dérouler de diverses façons, se traduire par une guerre qui est à l'avantage de l'un ou de l'autre, et se traduire par conséquent par la définition d'un statut juridique pour les infidèles. Les juifs et les chrétiens, à l'intérieur de l'empire musulman, ont reçu un statut juridique particulier et bien connu, et qui est appelé le statut des Ahl-Dhimma, c'est-à-dire des protégés. Ils sont des protégés du gouvernement musulman avec des dispositions juridiques particulières qui leur reconnaît la liberté du culte, de leur culte selon leur liturgie, leur croyance, etc. et qui leur reconnaissent un certain nombre de droits, mais pas tous les droits évidemment dont jouit le musulman à le statut plénier. Pour les infidèles, c'est-à-dire les polythéistes, la position est différente parce que à l'intérieur de l'espace musulman, de la demeure de l'islam, normalement le polythéisme n'est pas admis. Il est admis simplement en dehors des frontières de l'islam. Alors, je pense avoir répondu à la question suivante. Comment, selon le Coran, est perçu et toléré le non-musulman? Alors, dans le non-musulman, il faut bien distinguer, les peuples du livre qui, juridiquement, vont devenir les protégés, les dhimmis, ce sont principalement les juifs et les chrétiens, pour lesquels on reconnaît un rattachement, si l'on veut, à la vocation au salut, puisqu'il participe d'une certaine manière à la révélation, mais il leur est demandé de participer pleinement à la dernière version de la révélation qui est coranique. S'ils refusent, ils restent dans le statut d'ennemi, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir vocation au salut, mais c'est Dieu qui décidera comment les choses se passeront, mais ils ont un statut juridique particulier. Et puis, il y a les non-musulmans polythéistes qui, eux, ont un statut, encore une fois, différent.
Donc, question 6-4. Les autres textes fondateurs, hadith et paroles des saints imams. Les saints imams, qui chez les chiites ont la même valeur que la révélation coranique, disent-ils autre chose que le Coran au sujet de la tolérance envers non-croyants?
Oui, alors peut-être qu'il faut corriger dans la formulation ce qui est dit au sujet de la même valeur que la révélation coranique. En effet, les saints imams ne prétendent pas se hisser au niveau de la parole de Dieu elle-même. Ce qui est revendiqué par les saints imams, c'est ce que les chiites appellent l'infaillibilité, l'isma. Cette infaillibilité veut dire que les imams sont inspirés par Dieu dans leur mode de pensée, dans leur manière de s'exprimer pour les fidèles. Ils sont soutenus par l'Esprit Saint de Dieu, de façon que tout ce qu'ils enseignent aux hommes est garanti dans sa validité par cette inspiration, cette présence continue de Dieu en eux, lorsqu'ils se livrent à un enseignement. Donc, ils participent, si vous voulez, à un charisme surnaturel qui les fait parler toujours d'une façon qui est le prolongement de la parole de Dieu. Le prolongement plénier, direct, de la parole de Dieu, sans cependant être confondu entièrement avec le statut, évidemment, transcendant, inégalable, de la parole de Dieu. C'est une correction importante pour ne pas faire de l'imam un égal de Dieu, parce que ça, ce serait le péché irrémissible qui fait sortir de la communauté musulmane, qui fait justement sortir de cette communauté idéale que j'ai définie, et on tombe dans l'infidélité, c'est-à-dire hors de la communauté. Et les imams, bien sûr, ne sauraient aller dans cette extrémité. Alors, est-ce qu'il y a des enseignements et des attitudes différentes au sujet de la tolérance envers le non-croyant? Une remarque d'abord sur le concept de tolérance. C'est un concept moderne. Ne faisons pas d'anachronisme. Nous n'avons pas le droit d'appliquer ce concept à des générations et à des cultures qui appartiennent à un espace mental étranger à cette notion de tolérance. La notion de tolérance s'affirme dans un contexte social et politique où des groupes sociaux compétitifs, rivaux, s'affrontent. Bien évidemment, en Occident, lorsqu'il y a eu les guerres de religion, on a vu que c'était tellement dangereux pour la société qu'on a recherché des remèdes à cette situation. Et on a commencé à parler de tolérance. On est bien obligé de cohabiter ensemble. Et l'idée de tolérance commence à grandir et commence à s'imposer. Et nous pouvons suivre le développement de cette idée de tolérance en relation avec un phénomène social, politique précis. Nous pouvons observer le même phénomène dans les grandes villes musulmanes, dans la période classique, au temps où les juifs, les chrétiens, les musulmans coexistaient à Cordoue, à Bagdad, à Ispahan, à Shiraz, au Caire, dans d'autres villes, ils coexistent dans un même espace politique et social. De même, les chiites et les sunnites. Au IVe siècle, à Bagdad, qui était une très grande métropole de plusieurs milliers d'habitants, les affrontements entre les chiites et les sunnites étaient presque quotidiens. Autrement dit, l'ordre social était constamment menacé. Eh bien, on a vu naître un discours de la tolérance face à cette réalité sociale et politique. Et le discours de la tolérance a été tenu par les philosophes. Et les philosophes insistaient sur le rôle de la raison qui pouvait transcender les conflits qui opposaient jusqu'au sang les croyants d'une même cité, d'une même religion, d'une même religion, oui, l'islam, etc. Donc, le concept de tolérance n'est pas quelque chose que l'on peut appliquer indifféremment à toutes les époques et à tous les groupes sociaux. Cela dépend des situations où l'on se trouve. Par exemple, si on regarde aujourd'hui la situation sociale des sociétés maghrébines, la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, ce sont des sociétés à peu près homogènes du point de vue religieux. Elles appartiennent toutes à la même école juridique qui est l'école malékite. Le problème de la liberté religieuse et le problème de la tolérance ne se présentent pas, pour ainsi dire, dans cette société. On n'a pas besoin d'y insister. On n'a pas à tolérer un nombre de religieux, des gens de religions différentes. Vous me direz qu'il y a, les chrétiens, il y a eu des chrétiens, mais nous savons que la relation entre les chrétiens et les musulmans a été vécue et s'est développée sous le signe d'une souveraineté politique étrangère et laïque. Donc le problème est différent. Et l'intolérance qui s'est développée effectivement n'est pas une intolérance d'essence religieuse, mais une intolérance liée aux inégalités politiques et à l'intolérance vis-à-vis d'une souveraineté politique étrangère imposée à une société par la force. Il faut donc ici analyser le phénomène de la tolérance en situation. De la même façon, si nous essayons de voir comment on peut aborder cette situation de tolérance, ce concept de tolérance à Médine et à la Mecque pendant que le Coran émerge pour la première fois, au temps du prophète. Comment se présente le problème? Eh bien, le problème est lié à l'apparition d'un enseignement nouveau par rapport à une société qui était engagée depuis longtemps dans une culture, dans une religion, dans une conception de l'ordre social fondée sur des inégalités. Fondée sur des inégalités à l'accès aux biens religieux, inégalités à l'accès aux biens économiques, inégalités sur le plan politique, etc. Et une autre idéologie née qui essaye d'apporter des valeurs nouvelles qui vont être immédiatement refusées par la société antécédente. Il va donc y avoir une situation de conflit immédiat. Et dans cette situation, il n'y a pas de tolérance possible, puisque l'ancien ordre social et politique va tout faire pour étouffer le nouveau mouvement. Et le nouveau mouvement va essayer de vivre. On est en situation de conflit. Cette situation de conflit se traduit dans le discours coranique et se traduit dans le discours du prophète, dans les traditions prophétiques. Et comment cela se traduit-il? Et c'est là que, justement, pour essayer de cerner l'idée de tolérance, nous allons rechercher les critères de la valeur utilisés par les camps en présence. Quels sont les critères de la valeur utilisés par la société menacée, mais qui a encore le pouvoir, société ancienne, l'ordre ancien, et la minorité qui émerge et qui revendique un nouvel ordre social, un nouvel ordre politique et même un nouvel ordre symbolique. C'est donc dans les critères que nous allons essayer de départager les forces en présence. Et lorsque je parle ainsi, je n'invente rien, ça n'est pas une approche d'une situation ancienne par un esprit moderne. C'est le discours du prophète lui-même qui nous guide. En effet, le prophète, face à cette situation de conflit, essaye de mettre en place des critères nouveaux de la valeur. C'est très net. Face au discours ancien, il apporte un autre discours concurrent, fondé sur une autre symbolique de l'existence humaine, une autre symbolique fondatrice d'un autre ordre moral, juridique, politique, etc. Et face à ce conflit qui se situe en profondeur au niveau de la critériologie, des critères pourront servir à un nouvel ordre, mais qui se traduit socialement et politiquement par un affrontement militaire, nous avons évidemment à prendre position. Nous sommes appelés à prendre position. Mais cette situation n'a absolument rien de particulier. Elle n'a rien de singulier. Nous sommes constamment, en tant que membres d'une société, appelés à prendre position sur des situations de conflit qui opposent les groupes sociaux entre eux, et à prendre position sur quelle base? Sur quels critères? Le problème, donc, revient à la détermination des critères qui vont faire que je vais me ranger dans un côté ou dans l'autre, nécessairement. Ce que je suis en train de dire sur la question de la tolérance permet de poser la question de la tolérance à un niveau d'analyse sociale et historique bien plus radical que le niveau idéaliste, abstrait, certainement souhaitable, sur lequel se situe le discours de la tolérance. Le discours de la tolérance est un discours moral pour apaiser les conflits, mais qui ne résout pas le conflit en profondeur qui peut-être est un conflit indépassable. Il est indépassable parce que, comme le disent aujourd'hui les sociologues et les anthropologues, les sociétés sont des systèmes d'inégalité. Ce ne sont pas des systèmes d'égalité. Ce qui est donné dans la société, dans toute société, ce qui est le donné avec lequel il faut vivre, ça n'est pas l'égalité, c'est l'inégalité. Et à partir du moment où c'est l'inégalité qui est la donnée première, la situation que nous devons vivre et résoudre est une situation de conflit. À partir de là, nous avons deux manières de résoudre cette situation de conflit. Ou bien, nous allons la résoudre par une recherche toujours plus pointue et plus aiguë du critère qui nous permet de transcender les inégalités et de transcender les conflits qui en résultent. C'est, en gros, je n'ai pas le temps de développer, la voie du prophète. C'est la voie du héros civilisateur. Et je fais la distinction entre le héros civilisateur qui introduit cette préoccupation du critère à un niveau collectif pour soulever la collectivité. Je différencie cela du philosophe, du théologien.
Oui, je différencie cela du philosophe, du théologien qui spécule sur des idées émancipatrices, mais ne soulève pas nécessairement par leur spéculation l'ensemble d'une société et surtout les grandes masses comme le prophète ou le héros civilisateur ou le Mahdi, comme on l'appelle en islam, peut soulever toute une époque et toute une société. C'est la grande différence donc entre les deux types d'actions. Et alors pour revenir à la question de la tolérance, la question de la tolérance apparaît dans toutes les sociétés, et pas seulement en islam, comme un effort de la part de la société pour atténuer des conflits qui deviendraient si menaçants qu'ils pourraient entraîner la déchéance ou la disparition de cette société elle-même. C'est donc une sorte de correctif à un danger qui menace une collectivité. Ainsi définie, la tolérance, c'est une sorte d'attente pour que l'orage passe, mais ça n'est pas une attitude fondamentale, dynamique de la pensée, pour essayer de prendre en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, les racines des conflits qui sont toujours présents dans la société. Et donc, il y a une résurgence constante de ces conflits, et voilà pourquoi, personnellement, je n'attache pas beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la tolérance, parce que, au mieux, elle installerait une indifférence à l'égard de ce qui reste l'urgence pour la raison, qui est de dépasser les raisons profondes des conflits qui sont récurrents dans une société. Voilà pourquoi il ne sert à rien de dire que les musulmans sont fanatiques, les musulmans ne sont pas tolérants, les musulmans ont répandu leur religion par le sabre, etc., comme on l'entend dire de la part des occidentaux qui effectivement sont sortis des guerres de religion que nous avons connues pour retomber dans d'autres formes de guerres qui sont des guerres idéologiques auxquelles nous assistons et des guerres très, très meurtrières et très dévastatrices et qui donc n'ont pas réellement créé une tolérance à la fois en tant qu'attitude donc dynamique de la pensée vis-à-vis des problèmes qui divisent les hommes en société. J'ai l'air d'être contre la tolérance en disant cela, mais en réalité, je veux dépasser en disant cela le concept de tolérance. Non seulement à l'intérieur de l'islam et du développement de la pensée islamique, mais à l'intérieur également de la pensée occidentale, puisque, encore une fois, la pensée occidentale enseigne la tolérance dans la mesure où elle veut se protéger elle-même de menaces venant de l'extérieur. Si les Occidentaux parlent tant de tolérance en face des musulmans, c'est parce qu'ils se sentent, à tort ou à raison, menacés par les musulmans. Ils disent « Regardez-nous, nous sommes des tolérants, soyez tolérants comme nous ». Mais c'est un discours, encore une fois, qui essaye simplement de retarder et d'atténuer un conflit qui risque d'éclater et de causer de graves dégâts à la coexistence des hommes en société. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la question au sujet de la présence de cette notion de tolérance dans le Coran et dans le Hadith, je dirais que ce qui est présent fondamentalement dans le Coran et le Hadith, c'est cet effort du prophète pour déplacer les raisons des conflits qui divisent les hommes en société, des intérêts matériels, des intérêts de pouvoir qui en effet mobilise les groupes et dresse les groupes les uns entre les autres, déplacer les enjeux, donc, de ce niveau-là vers le niveau de ce que j'ai appelé la recherche des critères devant définir le sens de l'existence humaine et devant réconcilier par conséquent les rivalités, réconcilier les oppositions à un niveau supérieur du sens de l'existence. Voilà l'essence de l'action du prophète. Et voilà, si nous les lisons correctement, le niveau où les textes religieux fondamentaux et fondateurs nous enseignent non pas la tolérance, mais quelque chose qui dépasse infiniment la tolérance, c'est le désir inextinguible de capter, en quelque sorte, de posséder, de maîtriser les critères fondamentaux qui doivent orienter notre existence et réconcilier fondamentalement, radicalement, les hommes entre eux en société. C'est cela, le projet prophétique et le projet du héros civilisateur. Et je le répète, c'est beaucoup plus que la tolérance, qui est à mes yeux le produit d'une raison plutôt paresseuse. Oui.
6.5. Le statut de la femme selon le Coran et selon la tradition élargie aux hadiths et aux imams.
Oui, la question de la femme est une question malheureusement qui ne peut être traitée dans le cadre d'une réponse partielle dans un livre aussi court. Ça, il faut le marquer dès le départ. En effet, il y a sur la condition de la femme en islam toute une imagerie déjà bien établie dans l'imaginaire occidental sur l'islam. Et il n'y a pas pratiquement d'intervention publique sur l'islam où les auditeurs ne posent pas la question de la situation, le statut de la femme en islam, parce que tout le monde sait que la femme en islam est dans une situation effectivement inférieure, juridiquement inférieure au statut de l'homme, que la condition féminine dans les sociétés musulmanes actuelles est malheureusement tellement éloignée de ce que nous connaissons pour la condition féminine en Occident, que ça provoque effectivement des indignations de la part des femmes d'abord et de la part des Occidentaux, mais ce sont des indignations qui n'expriment pas un engagement effectif pour la condition féminine et plus largement pour la personne humaine. Elle représente une indignation qui permet surtout de souligner l'infériorité fondamentale de l'islam par rapport au christianisme en tant que religion et de la culture et de la civilisation musulmane par rapport à la culture et à la civilisation de l'Occident moderne. Autrement dit, ce sont des questions qui révèlent plus une attitude polémique, apologétique et offensive qu'un engagement profond pour la défense du statut de la personne humaine dans les différentes civilisations et dans les différentes cultures. Je le souligne parce que j'ai ressenti cela pratiquement à travers toutes les sociétés occidentales où je me suis exprimé dans des conférences publiques. Je l'ai ressenti dans la forme des questions qui sont posées et dans l'esprit de la discussion au sujet de la situation de la femme. Du côté musulman, chaque fois que la question de la condition féminine est soulevée, l'attitude est également une attitude toujours défensive et par conséquent toujours apologétique. Je dirais que c'est presque inévitable, puisque à une attitude ressentie comme offensive, critique et polémique, répond une attitude nécessairement défensive et apologétique. Voilà pourquoi il faut commencer par résumer la réponse la plus courante qui est donnée par les musulmans aujourd'hui aux questions qui reviennent constamment sur la polygamie, la répudiation, le travail des femmes, les femmes cloîtrées qui ne sortent pas librement, etc. La réponse qui est donnée, c'est que la situation de la femme avant l'islam en Arabie était encore beaucoup plus malheureuse, beaucoup plus révoltante, bien en deçà de ce que l'on peut espérer et revendiquer pour la personne humaine, qu'elle ne l'est dans le Coran. Et que le Coran, au sujet de la femme, a introduit une véritable révolution. Le Coran a introduit une émancipation de la femme par rapport à ce qu'elle a été dans la société arabe avant l'islam et à ce qu'elle a été, bien sûr, dans d'autres sociétés comme l'Afrique du Nord ou même comme l'Europe du 7e siècle avant l'arrivée de l'islam. Autrement dit, l'islam est présenté comme un événement révolutionnaire en ce qui concerne l'émancipation de la femme. Voilà, en gros, la réponse qui est faite par les musulmans face aux questions, encore une fois, agressives, et dépréciatives posées par l'opinion occidentale. Bien entendu, on ne peut pas du tout s'en tenir à cette situation, ni du côté occidental, ni du côté musulman. Et de nouveau, ici, il faut rechercher un moyen de déplacer complètement la problématique courante sur la condition des femmes, même la problématique dominante dans le discours féministe occidental tenu par les mouvements féministes en Occident. Parce que là aussi, on se saisit, bien sûr, de situations d'inégalité absolument criantes et inadmissibles dans toutes les sociétés, c'est certain. Et on essaye d'agir sur ces inégalités apparentes et réelles, apparentes je veux dire manifestes, par des initiatives politiques et des combats politiques, comme nous en vivons dans toutes les sociétés. Mais c'est le niveau superficiel du débat. Ça n'est pas le niveau profond du débat. Le niveau profond du débat me semble devoir se situer au niveau des structures élémentaires de la parenté, au sens où Lévi-Strauss les décrit pour les sociétés anciennes, mais qui valent pour toute société. Les structures élémentaires de la parenté commandent en effet les mécanismes de conquête, de répartition et d'exploitation des richesses dans une société et des pouvoirs dans une société. Aussi bien des richesses matérielles que des richesses symboliques, aussi bien des pouvoirs politiques que des pouvoirs culturels et des pouvoirs religieux dans une société. C'est à travers le fonctionnement des relations de parenté et des structures élémentaires de la parenté que l'on peut suivre dès leur départ et dès leur base fondamentale, que l'on peut suivre les processus historiques et sociaux de conquête des pouvoirs, de répartition des pouvoirs et d'exploitation des situations ainsi conquises dans un espace politique et sociale déterminée. Ça, c'est une première direction fondamentale et qui est, comme vous le voyez, anthropologique de l'analyse du problème de la femme qui va nécessairement intervenir dans ces structures de la parenté d'une certaine façon et d'une façon en tout cas différente de celle de l'homme. Un autre niveau profond de l'analyse de la condition de la femme dans la société, c'est le niveau de la sexualité. Le rôle de la sexualité, non seulement dans la structuration du psychisme de chaque individu, donc l'émergence de la personnalité et dans la socialisation de chaque personne, mais également dans la circulation des biens symboliques et des biens matériels dans une société, à travers les alliances qui se contractent entre les familles par les mariages, ce qui nous renvoie au problème de la parenté. Et la sexualité, donc, a des enjeux pour l'émergence de la personne, et à travers l'émergence de la personne, elle a des enjeux pour le fonctionnement des systèmes de valeurs qui commandent la vie de la collectivité, la vie de chaque groupe social constitué en groupe autonome. Et voilà pourquoi, dans chaque groupe, le problème du contrôle de la sexualité va prendre une importance primordiale. Comment contrôler la sexualité? Et là interviennent évidemment toutes sortes de stratégies, à la fois là aussi symboliques, toute la symbolique qui entoure la vie sexuelle et les relations sexuelles, et tout le code qualifié de code éthique. Et en particulier dans le cas qui nous occupe dans les sociétés musulmanes, ce qu'on appelle le code de l'honneur. Le code de l'honneur, mais je dis musulmane, je peux dire plus largement les sociétés méditerranéennes par exemple. Le code de l'honneur qui contrôle la sexualité dans toutes les sociétés méditerranéennes est bien antérieur à l'islam, bien antérieur au christianisme, et fonctionne donc à un niveau profond des sociétés, et il contrôle en premier lieu la sexualité, parce que c'est par la sexualité que s'opère la reproduction, que s'opère la croissance de la société, que s'opère par conséquent la distribution du bien premier qui constitue la société, la force d'une société ou d'un groupe, et qui est le nombre d'habitants, le nombre d'hommes et de femmes qui existent dans le groupe. Voilà donc des niveaux d'analyse qui se situe en amont, bien en amont, de ce qui va intervenir sous la forme du religieux, de la dimension religieuse. Quand l'islam intervient au début du 7e siècle, il est bien évident que toutes ces questions du contrôle de la sexualité, des systèmes de la parenté, existaient depuis très longtemps, et ils vont continuer d'exister sous le signe de l'islam, ils ne vont pas disparaître. L'islam va essayer d'agir sur ces niveaux-là, mais il le fait d'une manière, comme d'autres religions d'ailleurs, sporadique, et d'une manière qui ne modifie pas fondamentalement les réalités qui fonctionnaient et qui vont continuer de fonctionner dans ces sociétés à un niveau si profond que justement l'intervention de l'islam reste essentiellement une intervention de sacralisation. L'islam confère une dimension sacrale, religieuse, en la rattachant à la révélation, en la rattachant à un Dieu unique, à des représentations, à des croyances, à des pratiques qui jusque-là étaient également sacralisées, mais sacralisées selon le sacré polythéiste, selon le sacré, je ne sais comment s'il est correct de le qualifier de primaire ou en tout cas un sacral qui a des références différentes de du sacral nouveau qui est introduit par l'islam en relation avec tout ce que nous avons dit sur la révélation, sur le logos divin, sur le rapport de l'homme à Dieu, etc., etc. Donc il y a une sorte de rationalisation, d'absolutisation, une certaine purification peut-être, mais il faudrait voir comment et dans quelle mesure, du sacral qui servait à légitimer et à symboliser, encore une fois, des réalités vécues dans les sociétés anciennes et qui vont continuer à être vivres dans la société musulmane, comme dans la société chrétienne, comme dans la société juive, sous le signe d'une sacralisation et d'une référence, encore une fois, différenciée, mais différenciée au niveau de la formulation, au niveau des rituels, mais pas au niveau des réalités profondes que constitue, encore une fois, la sexualité, des relations de parenté et toutes les conduites sociales qui en résultent. Ceci dit, l'analyse évidemment se complique parce que il y a la répartition des tâches, la répartition du travail également dans la société entre l'homme et la femme. Et cette répartition va se faire en fonction des contraintes biologiques qui vont agir très fortement à l'intérieur des sociétés tant que ces contraintes biologiques ne seront pas corrigées et transférées à des niveaux différents par l'intervention toute récente de la médecine moderne qui change complètement la dimension biologique de la situation de la femme et la dimension biologique de la situation de l'homme. La fonction de reproduction, la fonction de reproduction qui fait que c'est la femme qui porte l'enfant, etc., tout ceci crée des contraintes et crée une distribution des tâches dans la société qui évidemment maintient pour des siècles la femme dans une situation d'infériorité par rapport à l'homme. Si nous voyons la condition de la femme à ce niveau d'analyse, il est évident que la responsabilité de l'islam dans la condition de la femme actuelle dans les sociétés musulmanes se trouve considérablement atténuée et considérablement limitée à une intervention, je dirais, superficielle de changement de vocabulaire et de changement de perception de réalité qui restent fondamentalement les mêmes, non seulement dans les sociétés où intervient l'islam, mais dans l'ensemble des sociétés. Et voilà pourquoi la question de la condition féminine, à mon sens, ne doit pas être posée au niveau des religions autant qu'elle devrait l'être au niveau de la modernité matérielle, de la modernité scientifique et évidemment de la modernité intellectuelle aussi, sur le statut non pas de l'homme et de la femme, mais sur le statut de la personne, des droits de la personne, qui est un concept moderne et un concept nouveau, là aussi, qui nous engage à réfléchir à un plan de généralité et un plan de profondeur de l'analyse du statut de la personne qui dépasse les niveaux juridiques ou même les niveaux éthiques locaux auxquels on situe généralement le problème de la condition féminine dans les contextes culturels ou dans les contextes historiques, soit occidentaux, soit islamiques, soit asiatiques, soit africains, etc. Ceci dit, il faut évidemment considérer que la résurgence récente de ce qu'on appelle la loi musulmane, c'est-à-dire la charia, et l'application de la charia dans les sociétés contemporaines musulmanes à une échelle beaucoup plus large que la charia n'a jamais été appliquée jusqu'à présent, parce que les États contemporains surgis des luttes coloniales introduisent pour la première fois cette charia au niveau de ce qui devient l'espace national, le territoire national. C'est-à-dire que pour la première fois, des groupes sociaux qui jusqu'à présent, jusqu'aux indépendances, avaient échappé, bien avant la colonisation, avaient échappé à la généralisation de l'application de la charia. Des groupes sociaux entiers ont continué d'obéir à des coutumes locales propres à ces groupes en ce qui concerne la condition de la femme et le statut de la femme, le statut juridique, le mariage, la filiation, etc. Après les indépendances, c'est la charia qui va être étendue pour la première fois à l'ensemble du territoire national, donc des groupes particuliers, et par conséquent, c'est la première fois que nous affrontons le problème de la condition féminine sous l'angle de la charia musulmane, cette fois-ci généralisée à tout l'espace social. J'insiste, pour la première fois dans l'histoire, alors que jusqu'à présent, il y a une diversité de statuts, une diversité de faits. Et cette généralisation du statut de la charia à l'ensemble des territoires nationaux, donc des groupes présents sur le territoire national, pensant par exemple au Soudan, où est en train de se dérouler la guerre que nous connaissons, avec le sud qui est chrétien et le nord qui est musulman, le pouvoir étant exercé par les musulmans, l'État musulman généralise l'application de la charia sans autre forme de procès à des ensembles sociaux qui relèvent de traditions différentes et de coutumes différentes et donc de statuts différents. Sans parler ici de la valeur de ce statut, je ne dis pas que l'un est supérieur à l'autre, je décris une situation d'ensemble pour montrer que c'est la première fois qu'il y a confrontation entre une condition de la femme émancipée en Occident parce qu'elle bénéficie d'une évolution historique qui a amené à poser le statut de la personne en Occident en des termes que nous qualifions effectivement de modernes. Et face à cette situation historique qui est le résultat d'une longue évolution historique, nous voyons en face surgir une situation où un droit défini dans des conditions historiques médiévales, très anciennes, ressurgit pour consacrer une situation juridique qui manifestement est désarticulée par rapport à la situation générale réalisée en Occident. Et cette désarticulation et cette différence, effectivement, qui reflète le rythme historique différent de l'évolution du droit occidental et du droit musulman, c'est cette désarticulation qui frappe aujourd'hui l'observateur occidental et qui frappe de plus en plus le musulman lui-même. Le musulman lui-même est en train de constater qu'il y a distance et que cette distance doit être corrigée d'une façon ou d'une autre le plus vite possible. Telle est la situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est une situation qui demandera malheureusement beaucoup de temps et d'efforts parce qu'il s'agit de combler un retard dans le processus d'évolution historique et il s'agit de prendre en charge non seulement un héritage islamique sur cette question de la condition de la femme, mais de prendre en charge un héritage plus que millénaire, comme par exemple l'héritage de l'excision des femmes en Égypte, au Soudan, dans les pays d'Afrique, l'excision des femmes, cette pratique horrible et extrêmement ancienne, bien avant l'islam, qui ne doit rien à l'islam, mais qui s'impose aux consciences et aux pratiques, n'est-ce pas? Parce que ça nous renvoie à des pratiques millénaires qui agissent sur l'imaginaire des sociétés. C'est donc un ensemble extrêmement complexe que je ne fais qu'évoquer ici, mais qui mérite d'être étudié et pris en charge par un effort, non seulement d'émancipation juridique, il est urgent de le faire, mais par un effort plus fondamental d'émancipation culturelle, d'émancipation de la raison sur le plan de l'intelligibilité de problèmes profonds que la raison moderne scientifique ne sait pas encore affronter au niveau d'analyse, de réflexion et d'interprétation.